C'est une fois de plus notre joie de vous retrouver pour ce 16e rendez-vous depuis le début de 1980, lorsque pour la première fois je m'adressais de la part de Dieu à une communauté locale qui était loin d'être en nombre et en matériaux durs, ce qu'elle est aujourd'hui, puisque non seulement je commençais un ministère itinérant, mais que l'itinérance était poussée à son extrême, puisque nous changions de lieu entre les réunions de semaine et celles du dimanche matin, qui nous voyaient d'ailleurs dans une sorte de catacombe, je me souviens du sous-sol, mais c'était à une autre époque simplement. Nous bénissons Dieu pour les liens fraternels et d'affection qui nous lient ensemble, vous à nous et nous à vous. C'est un cadeau de Dieu. Nous sommes heureux de traiter ce beau thème tellement encourageant et, disons-le aussi, percutant. Fidèle quoi qu'il en coûte. À partir effectivement de ce passage qui introduit d'ailleurs l'histoire du prophète Élie, au chapitre 17 du premier livre des Rois, où je lirai pour vous, et je vous encourage à sortir, à dégainer vos épées. J'espère que vous avez votre épée, parce qu'un soldat de Christ sans épée, c'est quand même très problématique. Un roi 17, versets 1 à 16, texte sur lequel nous allons réfléchir sous l'autorité de Dieu maintenant. Je lis pour vous à partir du verset 1er de 1 roi 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Et alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, il alla à Sarepta et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi, pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Nous allons vers le Nouveau Testament et vers l'Évangile selon Luc. Dans ce troisième évangile, l'Évangile selon Luc, tout d'abord un tout petit échantillon issu d'un texte clé du Nouveau Testament, à savoir l'annonce de la naissance de Jésus-Christ à Marie par l'ange Gabriel. Et dans Luc chapitre 1er, donc au verset 37, après l'explication de l'ange qui répond à cette question de Marie, mais comment cela se fera-t-il cette naissance, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit, verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » Verset 37, tout petit verset, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Si je traduis directement du texte grec, « Aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. » Aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Nous y ajoutons enfin également un petit extrait de cet évangile de Luc au chapitre 4. Encore une parole ici que nous cueillons sur les lèvres du Seigneur Jésus lui-même durant ce temps passé au milieu des hommes sur la terre, ici dans la synagogue de Nazareth, versets 24 à 26 du chapitre 4. Mais, ajouta Jésus, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ, à l'aube de la royauté d'un certain Akab, flanqué de Jézabel, une femme idolâtre et cruelle jusqu'au bout des ongles, dans des temps extrêmement sombres, disons-le, les plus sombres, dans l'histoire d'Israël et en particulier dans l'histoire du royaume du Nord, avec sa toute jeune capitale, Samarie, sortie du sol en très peu d'années, ville nouvelle, capitale divers, puisqu'il y aura 2 capitales en fait à cette époque. Ce sont des temps difficiles et Dieu a suscité son serviteur, son héros, Élie, pour proclamer la parole de Dieu à une nation qui s'éloigne à une vitesse grand V de son Dieu, qui se corrompt, qui est en train d'arriver au sommet, au paroxysme de son infidélité. Et c'est ainsi que celui qui sans doute peut-être était bûcheron dans les montagnes de Galaad, une région montagneuse en Jordanie actuelle, laisse sa hache un jour et, après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, surgit comme un météore à la cour du roi Akab pour proclamer une malédiction de Dieu, l'accomplissement d'une menace écrite en toutes lettres dans les livres de la loi mosaïque, les premiers livres de la Bible, en particulier le Lévitique et le Deutéronome. Vous avez lu cette proclamation douloureuse avec moi. Dieu prend soin aussitôt de cacher son serviteur. Il lui indique la cachette dans cette région qui est coupée de profondes tranchées, littéralement, d'où le sens du mot kérit, ces vallées profondes parcourues d'oued. Et c'est là qu'Élie va vivre des moments à la fois palpitants face aux étonnantes surprises que lui réserve son Dieu, et des moments extrêmement difficiles, puisque à ce pont aérien unique dans l'histoire de l'humanité, constitué de corbeaux amenant au prophète de la viande et du pain deux fois par jour, va s'ajouter le cadeau, bénédiction merveilleuse, expression de la fidélité parfaite de Dieu à l'endroit de son serviteur, l'eau du torrent de Kérit qui coule jour et nuit, ce bruissement permanent aussi bien au coucher qu'au lever du prophète, et qui lui rappelle que Dieu s'occupe de tous ses besoins. Et comme nous l'avons vu, le niveau du torrent se met à baisser. Et bien entendu, cela suscite certainement toutes sortes de questions dans l'esprit du prophète, comme cela en aurait en tout cas suscité dans mon esprit. Parce que c'était le signe de la fidélité de Dieu. C'était une sorte de marque d'amour de la part de Dieu vis-à-vis de son prophète fidèle, qui avait annoncé ce message difficile au péril de sa vie. Et nous sommes entrés dans cette spirale de pensée qui parfois est la nôtre quand nos torrents, quand notre torrent, quand mon torrent de la bénédiction de Dieu, de la fidélité de Dieu, dans le domaine de mes besoins quotidiens, commence à baisser dans son niveau. Quand ma santé se détraque, quand mes relations avec d'autres partent de travers, lorsque ma vie professionnelle est menacée par le chômage qui monte, et nous pourrions ajouter à ces quelques indications tant d'autres marques qui peuvent nous déstabiliser en tant que vicissitude de la vie. Quelqu'un écrit ceci: rien n'est plus facilement tenu pour acquis qu'une foi qui n'est jamais mise à l'épreuve. Tant que les choses vont comme nous le voulons, nous continuons à placer en Dieu une confiance qui paraît forte et saine. Mais supposons que tout va bien, nous supposons, pardon, que tout va bien sur le plan spirituel, mais que se passe-t-il lorsque notre confiance est brusquement ébranlée? Comment réagissons-nous lorsque les vicissitudes de la vie nous écrasent tout à coup avec une force inouïe? Lorsque des tensions qui semblent insurmontables viennent assombrir des relations vitales? Lorsque des problèmes de santé ou d'emploi nous isolent de tous, sauf de Dieu? Et que celui-ci refuse de se manifester? Parce que c'est là le problème fondamental auquel le prophète va avoir à faire face. Il est homme de prière, reconnu par Dieu dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques au chapitre 5, tout comme dans l'Ancien Testament, dans ce livre, le premier livre des Rois, en particulier au chapitre 18, il est reconnu comme homme de prière. Un homme qui sait prier de manière inlassable, qui ne s'épuise pas dans la prière. Un homme que Dieu entend. Et pourtant, alors que le niveau de ce torrent baisse dangereusement, il semble que Dieu n'écoute plus son serviteur. S'il avait eu des problèmes relationnels, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec son prochain, il les aurait bien entendu réglés. Il serait passé, dirions-nous aujourd'hui, dans le langage du Nouveau Testament, depuis que la croix s'est dressée à Golgotha, il serait passé par la croix pour régler ses problèmes de manière à ce qu'il soit assuré de l'écoute de Dieu. Parce qu'il est vrai qu'il est des silences de Dieu qui sont liés à notre infidélité, à notre culpabilité, parce que nous préférons effectivement avoir un cœur partagé. Mais ce n'est plus le cas, en tout cas ce n'est pas le cas dans la vie du prophète Élie. puisque Dieu vient d'intervenir. Là, le processus de la sécheresse engendrant la famine s'est enclenché sur la parole de l'Éternel prononcée par la bouche d'Élie. Dieu a donc honoré la parole d'Élie. Il y a transparence dans la relation entre Élie et Dieu, entre Dieu et Élie. Et pourtant, Élie peut-être a beau prier, le niveau du torrent continue à baisser. Et vous savez ce qui se passe dans nos vies, je l'ai dit avant-hier soir, je l'ai redit hier, je le redis, dans cette introduction. Lorsqu'ainsi Dieu se tait obstinément, alors que notre situation se complique de plus en plus, alors que nous perdons tous nos points de repère, alors que ce torrent faiblit de plus en plus dans son débit, dans sa richesse de vie que représente l'eau. Nous passons par toutes sortes d'états d'âme qui vont de l'introspection à la fausse culpabilité, au découragement, à la tentation du doute quant à la fidélité de Dieu, à la révolte, au regret même de lui avoir obéi parce que notre obéissance quelque part nous est retombée sur le nez. Et puis il arrive un moment où nous disons, bien Seigneur, après tout, puisque tu m'abandonnes, je t'abandonne. Et je vais chercher comment m'en sortir, parce qu'il faut bien que je vive, et je ne peux pas vivre sans eau. Alors je vais chercher, je vais puiser dans ces manuels extrêmement épais de notre monde moderne, haut de tout temps, tous les systèmes de bricolage possibles et imaginables, système D, nous le disions, comme d'équerre. Nous cherchons des solutions que nous allons chercher au tréfonds de nos propres systèmes de pensée. Et vous savez combien nos bricolages nous jouent des tours. Vous savez ce qu'ils engendrent ? Parce que, avons-nous dit, Dieu travaille avec le temps. Que Dieu n'est pas prisonnier du temps. Qu'il intervient au bon moment, même si ce bon moment est dans l'inextrémis divin, voire même lorsque le mur du temps, pour évoquer le mur du son, mais le mur du temps est dépassé comme dans cette histoire. Et ainsi donc, avons-nous réfléchi vendredi soir sur l'épreuve du temps dans nos vies. Hier soir, nous avons évoqué l'épreuve du lieu, parce qu'heureusement, dans cette situation, Élie était là où Dieu le voulait, comme il se retrouvera un peu plus tard à Sarepta, là où Dieu le veut. Importance de vivre au diapason de Dieu, ce diapason qui donne le « là », tellement important pour un chef de chorale, de manière à distribuer les notes des deux ou quatre ou trois ou quatre parties en fonction du morceau interprété. Mais nous devons évoquer une troisième épreuve dans cet apprentissage de la fidélité à notre Dieu. C'est l'épreuve du silence de Dieu. C'est pour cela que plus spécialement dans l'introduction, je me suis appesanti sur cette non-intervention de Dieu, cette non-réponse de Dieu, en tout cas apparente, à la prière de son prophète. Je pense ici à cet homme de Dieu qui a traversé aussi comme une comète l'histoire de l'Église de Jésus-Christ sur le continent nord-américain. Cela s'est passé sur très peu d'années, puisque cet homme de Dieu est décédé, reparti près de son Seigneur à l'âge de 29 ans. Après 5 années d'un travail missionnaire extrêmement périlleux et difficile chez les Amérindiens, il s'appelle David Brainerd. Et durant ces 5 années, cet homme s'est consumé au service de Dieu, au sein de ses tribus, son labeur a été absolument acharné, il est finalement mort de la tuberculose, qu'il a communiqué à son épouse dans les derniers temps qui ont précédé sa mort, ce qui fait qu'elle a suivi finalement de très près aussi dans la tombe. Et j'ai recueilli une de ses paroles lorsqu'il décrit ses hauts et ses bas spirituels dans son journal personnel. Je couche dans un tas de foin. Mon travail est dur, extrêmement difficile. Il y a bien peu de succès apparent pour me consoler. Mais ce qui aggrave toutes mes difficultés, c'est que Dieu me cache sa face. Ce qui aggrave toutes mes difficultés, c'est que Dieu me cache sa face. Ce problème des silences persistants de Dieu, alors que nos situations deviennent parfois désespérées, puisque le torrent finalement est à sec. Et que pourtant, nous avons tenu à marcher avec lui, coûte que coûte. Je le répète, nous avons réglé les problèmes que nous avions à régler parce que nous ne voudrions pas être repris au Seigneur ou participer à l'enlèvement de l'Église en n'ayant pas réglé tous nos problèmes. Mais rendez-vous compte, si le Seigneur revenait en cet instant, combien certains d'entre nous seraient rouges de confusion. Parce que, ils refusent de pardonner, ils refusent de régler des problèmes, ils ont peut-être mis la main dans un sac où il ne fallait pas la mettre. Mais mes amis, mais c'est grave. Mais ici, redisons-le, ce sont ces problèmes de silence persistant de Dieu alors que on veut vivre dans la transparence parce qu'on l'aime, parce que nous ne saurions vivre autrement qu'avec lui. Et nous ne comprenons plus un certain nombre de nos équations qui semblaient si solides s'effondre subitement. C'est le révolte, le doute, le désespoir. Et pourtant, comme nous allons le voir, Dieu est fidèle. Et c'est cette fidélité de Dieu qui a fait écrire à un prisonnier juif emprisonné dans un cachot à Cologne, en Allemagne donc, ces mots émouvants sur le mur de sa cellule. Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Je crois en l'amour même quand il ne m'entoure pas. Je crois en Dieu même quand il se tait. Je crois en Dieu même quand il se tait. Et je recueillis avec beaucoup de bonheur ce poème merveilleusement inspiré à son auteur qui s'intitule « Puisque Dieu le veut ». Non, je ne comprends pas, Seigneur, mais je m'incline devant le grand problème où se perd la raison. Je crois en ta bonté, ta sagesse est divine, Seigneur. Je comprendrai là-haut dans ta maison. Tu ne restes pas sourd aux cris de l'âme en peine. Ton silence n'est pas silence indifférent. Pour le cœur angoissé, ta réponse est certaine, quand même elle n'est pas toujours ce qui l'attend. Ta voix, ô Dieu, n'est pas celle où mon cœur me pousse. Ton plan n'est pas mon plan, je le sais, je le vois. Pour que ta volonté m'apparaisse plus douce au calvaire, je viens adorer sous la croix. Je crois en ta bonté, ta sagesse est divine. Oui, je sais, tu veux le bien de ton enfant. Sans tout comprendre encore, à tes pieds je m'incline. Ta grâce me suffit et me rend confiant. Ton silence n'est pas silence indifférent. Dieu n'est jamais indifférent face aux besoins de tous les hommes de cette terre et plus particulièrement encore face aux besoins de ses enfants. L'indifférence de Dieu n'existe pas, l'apathie, l'insensibilité de Dieu n'existe pas. à la grande différence de toutes les divinités qui passent et trépassent, y compris celles des grandes religions mondiales. Certains parmi vous nous ont rendu visite à Chevilly, donc à 85 km d'ici, sur la Nationale 20 vers Orléans. Et pour plusieurs d'entre eux, ils sont entrés dans mon bureau. Et peut-être l'un ou l'autre d'entre eux se souvient-il de ce qu'il a vu dans mon bureau, à part les livres. Un tableau, une planche, une belle planche, vraiment, au cœur du bois, avec son écorce de part et d'autre. Et gravé dans cette planche, d'une grande longueur, le psaume 65 et le verset 10. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Chaque jour et chaque fois que j'entre dans mon bureau, je ne peux pas éviter de me souvenir que si mes torrents à moi, parfois, ont diminué dangereusement, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Même lorsque Dieu se tait, il y travaille. Même lorsque Dieu se tait, il travaille. Je pense ici à ces pianistes virtuoses, itinérants, souvent en voyage, qui traversent le monde pour donner ici et là des concerts très appréciés, qui s'arrêtent pour des nuits à l'hôtel et qui ont besoin de répéter. Et ils n'ont pas toujours à disposition l'instrument nécessaire et de qualité pour leur répétition. Et il ne s'agit pas un seul instant qu'ils se relâchent dans l'exercice. Il y a la fidélité aussi. Et, en tout cas dans le passé, parce que maintenant on a des moyens modernes par le biais de l'ordinateur, ils transportaient avec eux des claviers muets qu'ils sortaient de leur bagage, qu'ils installaient sur une table, et vous pouviez dormir dans la chambre d'à côté, de passage aussi, sans vous douter un seul instant qu'il y avait à quelques mètres de vous, de l'autre côté de la cloison, un de ces grands virtuoses qui était en train de pianoter en silence. Peut-être pour votre bonheur, parce que peut-être aviez-vous fait le déplacement pour pouvoir précisément assister, vibrer de bonheur en écoutant le fruit de leur labeur. Ils sont en train de travailler pour votre bonheur, mais vous n'entendez rien, parce que le clavier muet travaille. Ils travaillent, eux, en silence. Voyez-vous, dans l'histoire d'Élie, il est un contraste particulièrement saisissant. C'est le contraste entre le Dieu vivant, et nous ne cessons de le répéter dans cette série, puisqu'une douzaine de fois retentit ce carillon extraordinaire dans l'histoire d'Élie et de son successeur Élisée. Une douzaine de fois, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. 28 actes glorieux, extraordinaire, du Dieu à qui rien n'est impossible, qui jalonne le parcours d'Élie, puis ensuite de son successeur Élisée. Contraste entre ce Dieu vivant et Baal, et Astarté bien sûr. Baal dont il est question au chapitre 18, dans cette confrontation à la fois extraordinaire et terrifiante au sommet du Carmel. Lorsque les 450 prophètes de Baal se trémoussent, dansent, sautent d'un pied sur l'autre, se lacèrent, le sang ruisselle sur la totalité de leur personne, c'est un spectacle qui a quelque chose de terrible et d'abominable, et puis rien ne se passe. Baal n'intervient pas. Au point que Élie, qui ici fait preuve d'un humour tout à fait particulier, lorsqu'il se tourne vers eux, et que à midi, verset 27 du chapitre 18, il leur dit « Mais criez à haute voix, puisqu'il est Dieu !» Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Dieu n'est pas comme Baal. Inutile de passer nos semaines à nous lacérer, à nous faire des incisions, à porter ceinture de silice et que sais-je encore, étoffe grossière qui nous ferait mal et carcan autour du cou. Inutile de passer des semaines à jeûner. Dieu travaille. Même quand il se tait, il ne dort pas, nous dit l'un des psaumes les plus connus, vous le connaissez, le psaume 121, verset 4, il ne sommeille ni ne dort. Il a donc prévu pour Élie une incroyable délivrance. Il veut aussi conduire Élie plus loin. Est-ce que nous avons à cœur d'être conduits plus loin dans notre cheminement avec Dieu? Est-ce que tout en l'ayant trouvé, nous poursuivons notre recherche parce que Dieu reste l'insaisissable? Ou est-ce que nous sommes satisfaits simplement du point où nous sommes arrivés? Alors que la Bible nous dit que si nous ne poursuivons pas, nous perdons même ce que nous avons trouvé. Puisque le statisme n'existe pas dans la vie spirituelle. Cessez de faire fructifier ce que le Seigneur vous donne. Cessez de chercher et vous perdez ce que Dieu vous a déjà donné. C'est là le mécanisme terrible du recul, de la vie rétrograde, de la régression spirituelle. C'est le fondateur d'Opération Mobilisation, qui, Georges Verwer, qui a écrit ceci, « Les prières non exaucées, ou celles qui semblent être non exaucées, constituent l'un des autels les plus efficaces où Dieu forme ses vrais instruments. » Et cet homme de prière dont je vous ai déjà parlé dans les temps passés, parce qu'il est un de ces missionnaires du siècle dernier parmi mes préférés, James Fraser, qui aussi est parti auprès du Seigneur relativement tôt, après un ministère extrêmement difficile dans une région de montagne au cœur de la Chine, dans laquelle il était arrivé à l'âge de 22 ans. Cet homme de prière a écrit ceci, « Les prières non exaucées m'ont enseigné à chercher la volonté de Dieu et non la mienne. » Et il ajoute, « Je suppose que nous avons connu pour la plupart de telles expériences, nous avons prié, prié, prié encore, sans réponse. Le ciel était d'airain sur nos têtes. Mais béni soit cet airain s'il nous a appris à ensevelir un peu plus dans la croix du Christ ce moi toujours présent. » Parfois, notre requête était si bonne en apparence, mais cela ne garantit pas qu'elle soit de Dieu. Beaucoup de bons désirs proviennent d'un moi non crucifié. Et un autre homme de Dieu écrit parmi d'autres bonnes choses cette phrase que je retiens, « La foi que Dieu apprécie ». Et quand nous utilisons le terme foi, notre frère nous l'a rappelé dans l'introduction. Souvenons-nous que le terme grec pistis peut être rendu des deux manières, autant par foi que par fidélité. Donc chaque fois que vous entendez le mot foi, voyez-y une pièce de monnaie, ce texte, ce mot grec pistis, avec son côté face la foi, son côté pile, la fidélité. Indissociable l'un de l'autre, n'est-ce pas? La foi que Dieu apprécie semble croître de préférence quand tout s'en mêle, quand Dieu garde le silence quand le brouillard descend. Dieu a ses solutions à nos problèmes. Nous avons nos solutions, mais les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et Dieu a ses solutions. Et la solution de Dieu au problème d'Élie, ce niveau du torrent qui baissait jusqu'à être à sec, a certainement été une source de grand étonnement pour Élie. Vous savez, Dieu est un Dieu étonnant. Sauf pour ceux qui simplement veulent se contenter, nous l'avons dit hier soir, du SMIC spirituel. Dieu est un Dieu étonnant pour ceux qui veulent vraiment marcher avec lui. Mais voyez-vous, nous sommes comme les cruels Givaros, j'en parle dans mon tout nouveau livre, qui furent sans doute parmi les derniers chasseurs et réducteurs de têtes sur cette terre. C'est fou ce que nous sommes en permanence, vous et moi, tentés de réduire la tête de notre Dieu. Nous diminuons les capacités de notre Dieu. Nous l'enfermons dans nos petites boîtes rigides. Nous en faisons une sorte de Dieu pygmée. Ou encore de Dieu bonsaï. Nous nanifions Dieu. Comment on peut nanifier ces géants de nos forêts pour qu'ils nous procurent le plaisir de les présenter à nos visites dans notre salon. Voyez donc ce baobab que nous avons emprisonné dans ce pot. Eh oui, et nous pourrions parler du cèdre majestueux, du gigantesque séquoia, ou de l'énorme fromager au monstrueux empattement. Nous nous souvenons, Tina et moi, de notre dernier séjour en Martinique où le petit chalet bungalow dans lequel nous étions pendant une série de conférences juste sous la montagne Pelée à Saint-Pierre, il y avait un immense fromager qui trônait là devant notre regard. C'était impressionnant. Rappel des dimensions de notre Dieu, le Créateur de toutes ces choses. C'est Tozer, cet homme de Dieu qui était un chercheur de Dieu jusqu'à son départ dans les années 60 auprès de son Dieu, qui a dit ceci, qui a écrit ceci: le Dieu des évangéliques modernes étonne rarement qui que ce soit. Il s'arrange pour se tenir gentiment dans le cadre de nos constitutions ou de nos institutions. Il ne rue jamais dans les brancards de nos règlements. C'est un Dieu très bien élevé, très dénominationnel. Il est l'un de nous. Alors nous lui demandons de nous aider quand nous sommes en difficulté. Nous nous attendons à lui pour qu'il veille sur nous pendant notre sommeil. Le Dieu des évangéliques modernes est un Dieu pour lequel je ne puis avoir beaucoup de respect. Mais lorsque le Saint-Esprit nous révèle Dieu tel qu'il est, alors nous l'admirons au point d'en être émerveillés et ravis. Et je peux dire que j'ai été absolument bouleversé jusqu'à la racine de mon être en considérant le Dieu d'Élie en écrivant mon livre. Parce qu'alors, Élie est allé au fil de son ministère d'électrochoc spirituel en électrochoc spirituel. Dieu l'a protégé pour que son cœur ne cède pas et que son cerveau ne flanche pas non plus. Mais que de surprises! Et vous le verrez dans mon livre, on passe d'une surprise à l'autre quand sur les flancs d'Horeb, du Sinaï, Dieu accorde à son serviteur désespéré ce son et lumière tellement plus extraordinaire que les plus beaux sons et lumières que nous pouvons connaître ici-bas sur cette terre. Et qu'ensuite, il lui donne des ordres pour repartir, pour qu'un roi un nouveau roi soit désigné en Syrie, pour qu'un nouveau roi soit désigné, soit loin dans le royaume du Nord, en Israël, pour qu'un prophète puisse lui succéder, tant loin par lui. Mais mes amis, vous ne pouvez pas vous imaginer la densité d'électrochocs que cela pouvait signifier pour Élie. En fait, c'est ça ce qu'il a finalement sorti de l'impasse. De découvrir, mais que Dieu avait des plans absolument extraordinaires et nous les trouvons encore beaucoup plus extraordinaires que lui parce que nous avons la suite de l'histoire. Et quand on considère ce qui s'est passé ensuite avec Hazaël, roi de Syrie, avec le successeur, roi du royaume du Nord et également, avec Élisée, le prophète chauve, on se dit, mais Dieu, vraiment Seigneur, tu es incompréhensible. On ne pouvait pas imaginer que tu puisses réagir de cette manière face au problème et que confrontait Élie, ou face à sa désespérance après le terrifiant camouflet infligé par Jézabel la fanatique. C'est sans doute pour cela que Luther a dit, nous demandons de l'argent à Dieu, il nous donne de l'or. Nous demandons de l'argent à Dieu, il nous donne de l'or. Alors, notre problème, c'est que au départ, notre évaluation des valeurs est fausse. Nous appelons or ce que Dieu n'appelle pas or. Nous appelons argent ce que Dieu n'appelle pas argent. Et toute notre croissance avec le Seigneur, c'est une remise en ordre des valeurs, des vraies valeurs aux yeux de Dieu. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, un croyant en Angleterre envoyait un don à la Scripture Gift Mission, la SGM, qui continue d'ailleurs un travail remarquable de diffusion des Saintes Écritures, en mentionnant qu'il aurait voulu envoyer davantage, mais que la récolte n'avait pas été bonne à cause du manque d'eau sur sa ferme. Mais il fit également savoir qu'il était inquiet à cause des nombreuses bombes que lâchaient les Allemands. Et il demandait donc aux responsables de la SGM de bien vouloir prier pour que lui et sa femme soient épargnés. Et l'un des responsables de cette mission de lui répondre qu'il ne pouvait pas demander au Seigneur qu'aucune bombe ne tombe sur sa terre, n'est-ce pas, qu'aucune bombe ne tombe sur sa terre, mais qu'il prierait afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Ce n'était pas forcément très agréable comme réponse. Peu de temps après que le fermier ait reçu cette lettre, une énorme bombe explosa près de sa maison. Personne ne fut blessé. La bombe entra cependant si profondément dans le sol qu'elle fit surgir, tenez-vous bien, un cours d'eau souterrain. La source continua à couler. Pas comme le torrent de Kérit. Et elle fournit suffisamment d'eau, non seulement pour résoudre les problèmes d'irrigation de la ferme de ce croyant, mais aussi pour les fermes de ses voisins. Si bien que l'année suivante, grâce à une abondante récolte, il put envoyer un don largement supérieur à la mission. Une réponse de Dieu qui fit l'effet d'une bombe. Voyez-vous, durant ces silences de Dieu, Dieu nous prépare à comprendre et à accepter ses solutions. Et il fallait que Élie soit préparé à comprendre et à accepter les solutions de Dieu à son problème. Parce que Dieu connaît. Parce que Dieu voit l'avenir, Dieu sait de quoi mon demain sera fait, mes temps sont en sa main. Alors essayons de comprendre, pour terminer notre réflexion. Et nous dirons tout d'abord que, dans son infinie sagesse, dans ses capacités parfaites et sans mesure, dans son amour tellement fort, Dieu voulait faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord, bien sûr, Il voulait continuer à protéger et à pourvoir aux besoins de son serviteur. Il n'allait pas l'abandonner. Mais deuxièmement, il y avait un autre objectif. Et il y a souvent des strates, n'est-ce pas, dans les objectifs divins. Nous n'en voyons qu'un. Dieu envoie 2, 3, 4, 5, 6, parfois plus encore. Et Dieu voulait aussi sauver une pauvre veuve païenne de Sarepta qui appartient à Sidon, c'est-à-dire à Saïda, au sud de Beyrouth, dans les environs de Saïda. Alors là, il y avait un gros problème. Là, il y avait un énorme problème. Pourquoi? Mais tout d'abord parce que c'était hors du territoire d'Israël. Et qu'il fallait d'ailleurs faire une certaine distance, je crois 160 km, si mes souvenirs sont exacts, à découvert, alors que les sbires, la police montée de Jézabel, étaient sur les traces du prophète. Et puis pénétrer en terre païenne, c'était déjà problématique, mais à Sarepta, dans le territoire de Sidon, c'est-à-dire dans l'antre même de la bête. Alors, vous pensez bien que lorsque Dieu dit à Élie, eh bien, maintenant, tu pars à Sarepta, dans le territoire de Sidon, et comment, Seigneur? J'ai bien compris. Comment tu m'envoies précisément au quartier général de l'idolâtrie qui a empoisonné complètement la société d'Israël, précisément là d'où vient Jézabel. Mais Seigneur, moi je n'ai envie que de faire une chose, c'est de te demander de faire tomber le feu du ciel à Sarepta. Parce qu'il était le prophète de feu. Et il souffrait énormément de la désobéissance à la loi de l'Éternel et de cette idolâtrie qui prévalait. Alors il fallait donc que son cœur soit préparé. C'était shocking pour Élie. Dit d'une autre manière, Élie allait devoir faire un voyage, tenez-vous bien, en France. Ah oui. En France. Et je me souviens d'un séminaire pour responsables d'église, parmi lesquels il y avait de bons théologiens au Québec en novembre l'année dernière. Ou quand j'ai dit qu'Élie était allé en France, certains de ces éminentes têtes pleines de théologie m'ont regardé avec un regard inquisiteur. Est-ce qu'il est en train de déraper? Eh oui, il est allé en France. Parce que Sarepta, aujourd'hui Sarafan, à 15 kilomètres au sud de Sidon, mais dans la complexité des cités de la côte, nous avons cherché, nous sommes allés dans cette région, nous avons cherché Sarafan. Mais alors on a eu du mal à trouver l'endroit. Eh bien, en hébreu, c'est Tsarfata. Et Tsarfata qui signifie fonderie, qui est devenu Sarephat, puis Sarepta. Eh bien, chez les Juifs aujourd'hui, Tsarfat sert à désigner la Gaule, la France. Tout comme Ashkenaz sert chez les Juifs d'aujourd'hui à désigner en particulier l'Allemagne. Et si vous prenez un dictionnaire français-hébreu, vous verrez, français-hébreu, c'est Tsarfati, c'est l'adjectif, et hébreu, c'est Ivri, Tsarfati,
ivré.
Il est donc bien allé en France. On se comprend, n'est-ce pas? J'ajouterais même qu'il a eu des problèmes avec la Suisse. Parce qu'il avait des problèmes avec Bâle. Et Bâle, c'est pas en Suisse. Eh oui. C'est une actualisation un peu osée. Ne répétez cela à personne. C'est entre vous et moi. Mais c'est pour vous dire que l'histoire d'Élise est la nôtre, n'est-ce pas? Alors comment Dieu a-t-il préparé Élie à accepter cette solution? Eh bien, en travaillant à changer sa mentalité. Il fallait que, quelque part, la mentalité d'Élie bouge. J'ai cette parole de cet homme de Dieu qui est auprès du Seigneur maintenant, qui nous a laissé des livres remarquables, surtout les deux premiers, quand le ciel est silencieux, et qui écrit donc, après de terribles souffrances dans sa vie familiale et personnelle, « Vous savez, les êtres humains possèdent tous un défaut fatal. Ils croient pouvoir interpréter correctement tous les événements et toutes les expériences de leur vie. Mais des rois frappent parfois à notre porte vêtus comme des mendiants. Des bénédictions se présentent à nous sous l'aspect de malédiction et nous recevons souvent des anges sans le savoir. J'ai du mal à l'admettre, poursuit-il, parce que je préfère ne pas l'entendre et ne pas le reconnaître. Mais les plus grandes œuvres que Dieu a accomplies dans ma vie se sont déroulées à mon grand déplaisir et contre ma volonté. Nous luttons précisément contre ce que Dieu nous envoie pour nous bénir. Combien de bénédictions avais-je dénigrées parce qu'elles ressemblaient à des malédictions? Combien de rois avais-je débouté devant ma porte parce qu'ils avaient revêtu les guenilles d'un mendiant? Pensez à cette pauvre veuve qui était à deux doigts de la mort, nous y reviendrons. Pauvre veuve païenne. Alors qu'il y avait des veuves en Israël, nous dit Jésus. Alors il fallait que la mentalité d'Élie change. Comment est-ce que Dieu s'y prend? Tout d'abord, ben c'est simple, par l'envoi de corbeaux. Par l'envoi de ces animaux impurs, répugnants, et pourtant choisis pour le nourrir. Ça, c'était le premier électrochoc. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as choisi des corbeaux? D'autant plus qu'ils sont voleurs. Choisir un corbeau pour transporter de la viande, c'est choisir un alcoolique qui est imbibé du matin au soir pour transporter des bouteilles de vin à offrir à quelqu'un, n'est-ce pas? Pédagogie de Dieu. Comment Dieu nous met dans des situations pour nous obliger à réfléchir? Avec cette autre facette des corbeaux, c'est qu'une des caractéristiques du corbeau qui le différencie terriblement de notre société moderne au niveau du mariage, le corbeau est fidèle conjugalement. Une seule épouse, et il vit avec cette épouse tout au long de sa vie. Il était donc un signe de la fidélité de Dieu. Vous voyez, ce double aspect dans le corbeau. Répugnant d'un côté, mais ô combien signe de la fidélité de Dieu à ses engagements. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre histoire dans le Nouveau Testament, puisqu'il y a une unité fantastique dans les Écritures? Acte 10. Ce Simon-Pierre, le nationaliste, comme tout juif pouvait l'être, tout juif pieux, même converti à Jésus-Christ, mais en cours de révolution intérieure. Dans Acte 10, nous prenons vite ce texte, alors que Pierre est sur le toit de sa maison qu'il prie. Et verset 10, il eut faim, il voulut manger, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait s'abaisser vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Il y avait des corbeaux. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Et cela arriva jusqu'à trois fois. Ça, c'est le superlatif absolu. Quand dans les Écritures, Dieu dit quelque chose trois fois, mes amis, ne contournez pas la volonté de Dieu. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à cette vision, l'esprit lui dit, etc. Et voici, trois hommes, trois fois, trois hommes, c'est intéressant. Et voyez-vous, le travail de révolution dans la tête de l'apôtre était déjà en cours depuis un certain temps. Puisque, à la fin du chapitre 9, à Joppé, le Jaffa ancien, dans la suite de cette résurrection de Dorcas, il est dit que Pierre, verset 43, demeura quelque temps à Joppé chez un tanneur, un corroyeur, nommé Simon. Jamais un juif pieux n'aurait osé demeurer chez un tanneur. Non seulement parce que ça sentait mauvais, mais parce qu'il n'était pas question de vivre avec quelqu'un qui manipulait des peaux de bêtes, des animaux morts. Il se rendait impur selon la loi mosaïque dans le Lévitique. Et pourtant, Pierre n'hésite pas à aller dans cette maison à l'écart de la cité, parce que les tanneurs n'habitaient pas au cœur de la cité, précisément à cause des problèmes d'impureté. C'est-à-dire que Dieu était déjà là en train de le préparer à une étape suivante dans l'évangélisation de la région. Eh bien, voyez, c'est exactement le même processus qui se produit pour Élie. Au contact des corbeaux, certainement bien des choses ont dû se passer dans la tête d'Élie, qui ont peut-être ébranlé certaines de ses conceptions, certaines de ses équations faciles, sécurisantes, mais qui enferment Dieu, qui l'empêchent, en quelque sorte à vue humaine, d'accomplir ses plans dans nos vies. Et puis, voyez-vous, les corbeaux l'ont donc aidé à accepter le secours d'une veuve païenne, mais aussi les corbeaux ont préparé le salut de la veuve dans l'esprit d'Élie. Parce qu'il fallait que Élie comprenne aussi cette veuve. Il fallait qu'Élie puisse sympathiser avec cette veuve. Il fallait qu'Élie puisse être rempli d'amour pour cette veuve. Il était le prophète du jugement. Il était le prophète de la justice et de la sainteté de Dieu. Il était le prophète de feu. Il avait une personnalité assez rugueuse. C'était un solitaire. Il aurait pu bousculer cette veuve. Il aurait pu la prendre de haut. Il aurait pu la secouer alors qu'elle était veuve fragile, protectrice d'un enfant orphelin de père. Et voyez-vous, cette veuve, elle était exactement dans la situation qu'avait connue Élie au bord du torrent. Puisque devant la sollicitation d'Élie, quand il lui dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main », Qu'est-ce qu'elle répond ? Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Est-ce que nous ne pourrions pas utiliser d'autres termes et les mettre sur les lèvres de cette veuve ? Cette veuve pouvait dire à Élie, « Tu sais, mon torrent, il est presque à sec. C'est le dernier filet d'eau. Encore un verre, encore un fond de cruche pour mon fils et moi. Et c'en est fini. » Il fallait donc que le prophète Élie connaisse une expérience douloureuse, de privation progressive dans sa propre vie pour être rendu sensible à la situation de cette veuve et jeter un pont entre Dieu et elle qui soit le pont de l'amour et non pas le pont d'un légalisme outrancier, d'un caractère guillotin, hautain, etc. Et ceci m'amène à dire simplement qu'on ne peut pas emmener les autres plus loin que là où l'on est arrivé. Je ne peux pas emmener les autres plus loin que là où je suis arrivé. Et c'est dans la mesure où j'accepte que dans ma vie, il y ait ces torrents de Kérit qui suscitent mes interrogations. Mais pourquoi ? Je ne te comprends pas, Père, mais je te fais confiance. C'est dans la mesure où nous acceptons ces situations que nous sommes ainsi rendus capables d'obéir à l'appel de Dieu qui va nous conduire vers des hommes et des femmes qui traversent des situations similaires, mais qui ne connaissent pas encore notre Dieu, ou qui le connaissent mal, qui sont peut-être néophytes dans le domaine, qui ont besoin d'être encouragés. Mes amis, si cette veuve a été d'une telle soumission à la parole du prophète Élie, c'est parce que quelque part, il y avait un courant qui passait, un courant de sympathie, un courant de compréhension. Je ne sais pas, nous n'avons pas tout dans ce texte. Peut-être a-t-il pu expliquer à cette femme l'expérience qu'il avait vécue. En tout cas, ils se sont retrouvés. Ils se sont identifiés l'un à l'autre. Un pont d'amour, de sympathie a été jeté entre eux. Et elle a décidé que ce Dieu qu'Élie servait valait vraiment la peine d'être écouté. Et elle a donc obéi à un ordre révolutionnaire et que je dirais, jusqu'à un certain point, à vue humaine, totalement égoïste et discourtois. Parce que oser dire à une femme veuve sur le point de mourir avec son fils, eh bien, tu me prépares d'abord. Et puis, pour toi, le reste. C'était impoli. C'était dur. C'était brutal. C'était incompréhensible, c'était méprisant. Et pourtant, le courant est passé. Parce que tous ces aspects ont été effacés parce que Dieu avait préparé le cœur de son prophète au bord du torrent. On ne peut emmener les autres plus loin que là où l'on est arrivé. Et je vous laisse. Ces deux dernières citations, nous aurions pu développer d'autres aspects, mais nous avons vu l'essentiel. Vous connaissez, en tout cas par l'histoire, par la lecture de livres, par films, ce beau témoignage de Johnny, n'est-ce pas ? Frappé dans sa santé de manière tellement profonde dans sa jeunesse, à l'âge de 16 ans, tétraplégique, et qui témoigne aujourd'hui, en particulier parmi le monde des handicapés, mais qui est aussi un encouragement pour le peuple de Dieu dans bien des pays du monde. Et Johnny a écrit ceci plus tard. Je devais arriver à la conclusion que l'un des buts de Dieu, en nous envoyant de plus grandes épreuves, et de nous sensibiliser à la situation de personnes auxquelles nous ne nous serions jamais comparés sans cela. Laissez-moi vous dire une des raisons pour lesquelles c'est tellement important. J'ai observé que des gens qui ont connu de profondes souffrances sont parfois rebutés par les témoignages bouillants de chrétiens à la vie facile. Essayez de vous imaginer incurable, regardant la télévision de votre lit d'hôpital. Comment réagiriez-vous si un jeune croyant attrayant et plein de talent, pour qui tout semble bien aller, se présentait soudain à l'écran pour déclarer que Christ peut donner la victoire dans toutes les épreuves de la vie ? Dans certaines de mes hospitalisations, je pense à l'une d'entre elles, il m'est arrivé, devant la visite, oh, le principe de la visite était bon, appréciable, mais devant la visite d'amis qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur, il m'est pourtant arrivé de ne souhaiter qu'une chose dans mon état et face à leur attitude, c'est qu'ils quittent au plus vite la chambre. Parce qu'ils étaient venus en gros sabots. Et qu'on n'a pas besoin de gros sabots quand on souffre. Mais de bien autre chose. Seconde citation. Le livre de la vie de chaque chrétien contient quelques pages écrites à la demande du tuteur impitoyable nommé Déception. Les larmes ont peut-être obscurci ces pages à l'époque, mais en les revoyant à la lumière de l'expérience, nous pouvons y ajouter en bas de page « Merci Seigneur pour ces pertes ». Si vous êtes éprouvé par la déception, ne soyez pas amer. Tournez-vous vers le Seigneur, il est prêt à consoler ceux qui sont abattus. Vous êtes en train d'être préparé de façon unique à en aider d'autres qui ont de la difficulté à réussir leur cours de déception. Alors courage. Mais voyez-vous, à cela on ne goûte que lorsque notre cœur est mis sur l'autel. Que lorsque vraiment on lui donne tout puisqu'il a tout donné. Que lorsque vraiment son amour passe de son cœur dans le nôtre au point de nous rendre follement amoureux de lui. Notre problème, c'est que nos relations avec Dieu sont si souvent formelles, obligées. Comment serait-il autrement? Il faut bien que, puisqu'il nous a sauvés, nous ayons un semblant de relation avec lui. On a besoin d'avoir une conscience tant soit peu tranquille, mais c'est le SMIG. Dieu veut nous voir aller plus loin. Voulons-nous expérimenter dans nos vies non seulement le torrent à sec, mais aussi la veuve de Sarepta qui suit? Voulons-nous expérimenter la farine et l'huile qui ne cessent de nous approvisionner? Voulons-nous expérimenter dans nos vies cette fidélité étonnante de notre Dieu? Comment pourrait-il le faire si nous allons vers les combines, si nous préférons bricoler, si nous vivons simplement le minimum vital avec lui? Dieu veuille que, parce que nous avons partagé, nous ayons soif d'aller plus loin avec lui, de manière aussi à pouvoir en emmener d'autres plus loin. Toujours plus loin, jusqu'à ce que nous soyons, vous et moi, dans sa présence. Nous prions. Notre Père et notre grand Dieu, souverain et tout-puissant, nous te remercions pour Élie, cet homme de la même nature que nous, ressentant ce que nous ressentons, Merci pour lui, merci de ce qu'il est tenu ferme au bord du torrent. Merci de ce qu'il ait su attendre dans cette tranchée jusqu'à ce que le torrent soit à sec, afin que nous puissions avoir ce récit pour nous aujourd'hui, en septembre 2003. Merci pour le déploiement de ta fidélité si concrète, de ta puissance et de ta générosité merveilleuse. Merci pour le bonheur de cette pauvre veuve et de son fils. Seigneur, nous croyons que tu veux reproduire dans nos vies de telles expériences. Tu les adaptes. Mais merci de ce que tu veux que nous vivions de cette manière avec toi. Chacun à notre place, avec les dons que nous avons reçus, avec notre personnalité, dans nos fonctions, dans notre vie professionnelle, familiale, conjugale, personnelle, tu veux nous faire vivre cela. Rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, merci pour l'école de la fidélité. Et merci parce que à cette école, tu doses les examens pour qu'ils soient supportables. Et tu prépares déjà le moyen d'en sortir. Sois béni. Inscris ce que nous avons partagé dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos esprits, en lettres indélébiles qui se traduisent dans nos actes inspirés par toi. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié.